Chapitre 8. Cal Noonan appartenait depuis une douzaine d'années à la brigade de secouristes du comté, le SAR, aux côtés d'une soixantaine d'autres bénévoles. Formé aux techniques de recherche, d'orientation, de pistage, de sauvetage et de premier secours, il était aussi à l'aise dans les espaces sauvages de son enfance que dans son salon. Peut-être même plus. Cal faisait partie de ces gens qui ont des fourmis dans les jambes dès qu'ils passent trop de temps enfermés entre quatre murs. Il avait toujours été comme ça. Lorsqu'il était plus jeune, sa mère ne cessait de lui répéter avec exaspération « Cal Noonan, va jouer dehors avant de me rendre chèvre !» Son père lui avait offert sa première canne à pêche à 5 ans, un pistolet à air comprimé à 6. C'était seulement au lycée que Cal s'était découvert un goût pour la chimie qui l'avait conduit, au grand étonnement de ses parents, vers un métier en rapport avec les arts culinaires. Ayant grandi au pays du lait, Cal s'était passionné pour les aspects scientifiques de la production de fromage, de la fabrication de yaourts et tout le toutim. Du haut de ses 47 ans, il était désormais responsable de production à l'usine où il supervisait la confection et la maturation d'un des meilleurs fromages au monde, un produit exceptionnel vendu dans les épiceries fines. Ses fonctions l'amenaient à voyager davantage qu'il ne l'aurait souhaité, mais il s'en consolait par la fierté qu'il tirait de son travail. Celui-ci lui offrait de surcroît de vivre à Bakersville, avec ses plages rocheuses, ses prés verdoyants à perte de vue et bien sûr sa chaîne côtière qui dominait le tout. Pendant le week-end et les vacances, on le voyait toujours arpenter les bois, pêcher dans les cours d'eau ou même flâner sur la plage. Quand il n'était pas mobilisé comme secouriste volontaire. Les services du shérif recherchaient un fugitif armé. On avait retrouvé le véhicule du suspect abandonné un peu au sud du lieu de ses derniers meurtres connus. L'individu se déplaçant désormais à pied, il s'agissait maintenant de mener une bonne vieille chasse à l'homme entre le bitume de la route côtière et les contreforts des montagnes déchiquetées. Certains policiers auraient été intimidés par l'étendue de la zone de recherche. Cal et ses collègues, au contraire, adoraient ce petit jeu. D'autres membres du SAR étaient en train de se garer lorsqu'il arriva. Il les salua d'un signe de tête tout en effectuant sa manœuvre. Il avait en permanence des chaussures de randonnée et un sac à dos contenant tout le matériel nécessaire dans son véhicule. Mais il était repassé chez lui prendre sa carabine. L'alerte avait été déclenchée 30 minutes plus tôt. Étant donné que l'organisation comptait des bénévoles des quatre coins du comté, il faudrait une heure pour qu'ils soient tous sur site et qu'une cellule de coordination soit sur pied. Mais dans les affaires exigeant une grande réactivité, les premiers arrivés formaient aussitôt une équipe et démarraient les recherches. Cal, qui faisait partie des meilleurs pisteurs, s'attendait à partir sur le terrain dans le quart d'heure suivant. Il n'avait besoin que d'un point de situation et de quelques coéquipiers. Il repéra le poste de commandement mobile du comté. Un camping-car amélioré, garé de l'autre côté de la route, face à une station-service supérette défraîchie. On n'avait pas lésiné sur la rue Balise pour interdire l'accès à ce qui devait être la dernière position connue du tireur. Hochant la tête, Cal se dirigea vers le poste de commandement. Sur le seuil du camping-car, le shérif Atkins briefait les premiers bénévoles, pour la plupart luisants de sueur. La cible est un jeune homme de 17 ans, soupçonné de 4 meurtres par balle. On pense qu'il est en possession d'au moins 6 armes à feu, dont 3 carabines. Comme sa voiture a été retrouvée en panne, une surchauffe de moteur, à 3 kilomètres au sud d'ici, on pense aussi qu'il est à pied, ce qui limite forcément le volume de ce qu'il peut transporter. « Téléphone portable ?» demanda une voix à la périphérie du groupe. « Nous avons retrouvé son téléphone personnel dans la boîte à gants de la voiture. Il est possible qu'il ait un appareil jetable sur lui, mais rien dont nous ayons connaissance et qui nous permettrait de suivre ses déplacements. » « Quoi d'autre, comme matériel ?» demanda Jenny Johnson, la responsable de Cal, à la droite du groupe. « On ne sait pas. À part le téléphone portable, la voiture est vide. Donc si on suppose qu'il n'a pas voulu scoltiner tout un arsenal, il est possible qu'il ait planqué certaines armes. Sur les dernières images dont on dispose, il est vêtu d'un sweat à capuche noire et armé d'un 9 mm. De l'autre côté de la route, vous verrez son dernier point de passage connu. C'est une supérette. » Donc il a pu se servir en eau et en vivres après les meurtres. Si c'est le cas, il n'en a pas pris assez pour que ça saute aux yeux, mais on ne peut pas non plus en déduire qu'il est reparti les mains vides. Les volontaires approuvèrent. Règle numéro 1 en matière de pistage, raisonner comme la cible. Par ses fortes chaleurs, s'hydrater était une priorité. Le fugitif allait avoir besoin d'eau, des litres et des litres. un plein sac à dos de bouteilles ou bien des comprimés de purification pour se fabriquer de l'eau potable en chemin. Question suivante, venue de l'arrière du groupe. Aptitude à la survie en milieu naturel ? Inconnue, répondit le shérif. Ça grognait dans les rangs. Elle leva la main. Désolé, les enfants, mais les premières victimes de notre suspect ont été ses parents d'accueil. A priori, il les a abattus en tout début de matinée avant de quitter le domicile peu après 7h30. Après quoi il a descendu les seules personnes qu'il a croisées. Inutile de vous dire que ça limite la quantité d'informations dont nous disposons. D'instinct, Cal se redressa légèrement. L'ordre de mobilisation stipulait qu'il s'agissait de pister un fugitif considéré comme armé et dangereux. Mais il découvrait seulement à quel point il l'était, armé et dangereux. Il lui était déjà arrivé de traquer des hommes recherchés, accusés pour l'un de violence conjugale, pour l'autre de cambriolage avec effraction. Mais jamais un meurtrier présumé. « Ce que je peux vous dire, » continua le shérif, « c'est que le suspect est passé par une demi-douzaine de familles d'accueil. Parmi ses faits d'armes, violation de propriété, vandalisme et délit de rébellion. Ce matin, Telly Reynache est entrée dans la chambre des parents et les a tués par balles. Après quoi, tout laisse à penser qu'il a fait main basse sur le contenu de l'armoire forte, emportant les 6 armes et une quantité inconnue, mais sans doute considérable, de munitions. Ensuite, il est parti vers le nord au volant de la voiture de son père, qui est tombée en panne. On suppose qu'il a continué à pied et qu'il est arrivé un peu avant 8h à la station-service, où il a tué un client et la caissière, et depuis, personne ne l'a vu. » Le shérif se tut et leur laissa le temps de digérer ses nouvelles. « J'attire maintenant votre attention sur ceci, » reprit-elle en désignant une immense carte topographique scotchée à la paroi du camping-car. « Voilà notre périmètre de recherche initial. Étant donné que 3 heures se sont écoulées depuis les meurtres, nous avons tablé sur un rayon de 15 kilomètres, peut-être moins, vu la chaleur. » Cal le savait. La première étape d'une traque consistait à circonscrire une zone de recherche, définie en fonction de la distance maximale qu'avait pu parcourir le fugitif. Un individu à pied se déplaçant en moyenne à 5 km à l'heure, le shérif avait tracé un énorme cercle d'un rayon de 15 km autour de la dernière position connue du tireur, la station-service supérette, signalée par une grosse croix rouge. Les 3 heures d'avance que possédait le fugitif lui ouvraient déjà beaucoup plus de possibilités que Cal ne l'aurait souhaité. Et comme heure après heure le périmètre reculerait de 5 km, la zone de recherche était vouée à s'étendre. Heureusement, la géographie jouait en leur faveur, ainsi que l'expliqua le shérif. En regardant notre carte, on constate qu'en parcourant 15 km vers l'ouest, notre fugitif se serait retrouvé en plein milieu de la baie de Tillamook. Étant donné que c'est la saison des bains de mer et qu'aucun touriste n'a encore signalé de tireur en noir sur la plage, on peut raisonnablement penser que notre suspect n'est pas parti dans cette direction. Même chose, avancer plein nord ou plein sud l'aurait conduit à longer la route côtière. Une demi-douzaine de nos véhicules patrouillent dans le secteur depuis que l'alerte a été donnée, et le suspect n'a été signalé dans aucune zone commerciale ou résidentielle. Ce qui, toujours au vu de la carte, nous laisse la moitié est de la zone, les contreforts de la chaîne côtière. Le shérif descendit les marches, s'approcha de la carte et désigna une immense étendue colorée en vert. « Je suis prête à parier que notre fugitif est parti à travers la cambrousse et qu'il a grimpé jusqu'à la forêt pour pouvoir longer les contreforts dans l'une ou l'autre direction tout en restant à couvert. Ce qui expliquerait qu'il n'ait encore été repéré nulle part, alors que l'ensemble des forces de police est sur le pied de guerre. » Cal et plusieurs de ses collègues opinèrent du chef. Bref, la cellule opérationnelle avait commencé par délimiter une zone de recherche d'une superficie considérable. Grâce au découpage du littoral et à l'aide d'un raisonnement simple, le shérif avait déjà coupé le cercle en deux. À présent, les pisteurs chevronnés comme Cal allaient encore affiner l'analyse en identifiant des itinéraires naturels. Par exemple, une rivière ou une coulée de serre que le fugitif aurait logiquement pu suivre. Depuis l'épicentre du drame, plusieurs équipes rayonneraient dans différentes directions en s'attachant à repérer ces cheminements naturels. Ce serait alors à qui trouverait la trace du fuyard en premier. Et là, les choses deviendraient intéressantes. Le shérif conclut son briefing en leur donnant sa parole que ses enquêteurs étaient en train de rassembler tous les renseignements possibles sur le fugitif. À la minute où l'on en saurait davantage, elle veillerait à leur transmettre les informations. En attendant, le SWAT assurerait la protection de chaque équipe. Une brigade cynophile était aussi en route. Dernière chose, la priorité absolue pour elle était que chacun rentre chez lui sain et sauf. La réunion prit fin. Le SAR avait sa propre chaîne de commandement. Cal vit sa responsable, Jenny Johnson, devant la carte. Elle leur faisait signe de la rejoindre. Une des fausses idées les plus répandues concernant le pistage de fugitifs voudrait que ce soit les limiers eux-mêmes qui tombent miraculeusement sur le rable de leur cible. Mais même expérimenté et travaillant en terrain connu, un pisteur comme Cal ne pouvait progresser qu'à 1 km à l'heure. Étant donné que le fugitif se déplaçait, lui, à 5 km à l'heure, Cal et ses coéquipiers n'avaient guère de chance de le rattraper. Leur objectif était plutôt d'établir dans quelle direction il était parti. Quand on aurait retrouvé sa trace et déterminé le sens de son déplacement, l'équipe de Cal deviendrait un fer de lance qui pousserait leur cible vers l'avant, certes en la talonnant, mais aussi que cette cible en ait conscience ou non, en la contraignant à opérer des choix. Assez vite, les coordonnateurs comme Jenny Johnson, qui auraient suivi la progression de Cal sur la carte topographique, auraient un avis très arrêté sur le prochain point de passage obligé de leur cible. À ce stade, on déploierait une équipe qui se rendrait sur place au pas de charge pour l'intercepter. Pister un fugitif restait néanmoins dangereux. Une cible paniquée, aux abois, pouvait décider de décrire une boucle pour prendre ses poursuivants à revers, ou, se sentant acculé, se positionner en surplomb pour livrer un baroud d'honneur. Chaque équipe serait donc épaulée par des officiers du SWAT. La mission de Cal serait de lire la piste, celle des flanqueurs de s'assurer que chacun rentre chez lui sans égratignure ce soir. À supposer que la traque soit alors terminée. Il n'était pas rare en effet que les missions du SAR durent 36 heures, et Cal avait même effectué un jour une sortie de 48 heures. Dans ce cas, des collègues montaient à pied ravitailler les pisteurs en eau et en vivres au fur et à mesure des besoins. Telles étaient les exigences d'une chasse à l'homme. Cal était survolté, ce qui pouvait être une bonne comme une mauvaise chose. L'adrénaline donne des ailes et pousse à l'action, mais il ne fallait pas non plus perdre de vue que dans une traque comme celle-ci, mieux valait être tortue que lièvre. Jenny entreprit de former les équipes. Cal, en tant que chef pisteur, était dans les starting blocks. Ne lui manquait qu'un pisteur assistant, en gros une deuxième paire d'yeux, et 2 flanqueurs du SWAT. Jenny lui attribua Noreen Manley comme binôme. Cal approuva. Malgré ses cheveux gris fer, Noni, grand-mère de 4 petits-enfants, pouvait battre à la marche des pisteurs qui n'avaient pas la moitié de son âge et consacrait son temps libre à donner des cours d'alphabétisation pour adultes à la paroisse. C'était peu dire qu'elle était appréciée. En tout cas, Cal se félicita de l'avoir dans son équipe. Du côté du SWAT, Jenny lança les noms d'Antonio Barrio Nuevo et de Jess Dodds. 2 hommes en vert se détachèrent de l'escouade pour rejoindre Cal et Noni. Les 2 officiers portaient de minces gilets pare-balles. Vu la chaleur, Cal était désolé pour eux. Mais peut-être qu'avant la fin de la journée, c'était eux qui éprouveraient le même sentiment au-dessus de son cadavre. Allez savoir. Ils portaient des fusils d'assaut AR-15 de calibre 223 sur l'épaule. Cal devina qu'ils étaient équipés d'un viseur holographique IoTech. En outre, leurs gilets étaient bourrés de matériel. Chargeurs, trousses de secours, menottes en plastique, matraques. Et les poches de leurs pantalons militaires étaient alourdies par des barres protéinées, des comprimés de purification, des piles, sans doute même 1 ou 2 couteaux. Cal n'avait pas souvent l'occasion de travailler avec des agents des forces spéciales. À ce stade, c'était surtout leurs chaussures qui l'intéressaient. Rien ne freinait tant une équipe de recherche que les ampoules. Simplement contrariante au début, elle finissait par devenir une torture qui pouvait tous les paralyser. Mais ces 2 flanqueurs avaient l'air de porter des chaussures qu'ils aimaient particulièrement. Une pièce maîtresse de l'équipement aux yeux de Cal. Il leur fit son topo avec un débit de mitraillette, pressé d'y aller. Le fugitif avait déjà 3 heures d'avance, inutile de lui en donner davantage. « N'oubliez rien dont vous pourriez avoir besoin, mais ne prenez rien d'inutile, » dit-il en soulevant son barda. Le rythme ne va pas être soutenu, mais une fois parti, on ne reviendra peut-être pas avant plusieurs jours. Noni, qui n'en était pas à sa première sortie, bâilla. Antonio et Jess scièrent à peine. Des costauds. Logique. À la première sensation de frottement sur le pied, vous le dites, j'ai du sparadrap. Mieux vaut prévenir que guérir avec les ampoules. Parce que, je me répète, on sait quand on part, on ne sait pas quand on revient. Toujours leurs airs de dur à cuire. Cal continua. « Je fais des repérages jusqu'à une distance de 10 mètres, en cherchant des indices. c'est-à-dire des endroits où l'ordre naturel des choses a été modifié. Une branche cassée, de la mousse piétinée, ou encore, on peut rêver, une trace de chaussure dans la boue. Il a plu il y a 2 jours, donc avec un peu de chance, à l'ombre, les conditions pourraient être propices à la présence d'empreintes. Noni sera ma deuxième paire d'yeux. Comme on dit, 2 têtes valent mieux qu'une. Si je perds la piste, on retourne à la dernière position connue et de là, on progresse en spirale jusqu'à retrouver des signes. Vous aurez parfois l'impression qu'on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, mais il faudra nous faire confiance. Et au cas où vous n'auriez jamais travaillé avec des pisteurs, nous ne sommes pas des chiens limiers. On ne passe pas notre vie à regarder sous notre nez. La meilleure façon de repérer une trace est de s'en approcher de biais. Donc on regardera davantage devant nous qu'à nos pieds, ça ne veut pas dire que nous ne faisons pas notre boulot. Antonio et Jess hochèrent la tête, toujours imperturbables. Surveillez les hauteurs, leur conseilla Cal. Beaucoup de chasseurs dans la région, donc beaucoup de miradors qui feraient tous d'assez bonnes planques, au mieux pour se cacher, au pire pour nous canarder. Si j'en connais dans le coin, je vous les signalerai. Mais les chasseurs en construisent tout le temps de nouveaux, et ce secteur ne figure pas vraiment sur les cartes de randonnée. Double hochement de tête. Vous avez déjà fait de la marche ? J'ai grandi à Bend, répondit Jess. Une ville de l'autre côté de la chaîne des cascades, véritable Eldorado en matière d'activité de plein air. Cal vit le tableau. Ses officiers avaient été choisis pour leur aisance à évoluer en milieu naturel. Il les gratifia d'un grand sourire. Désolé, la hiérarchie, vous savez ce que c'est. Remarque qui lui valut enfin 2 larges sourires en retour. Ils connaissaient tous la hiérarchie, et il y avait des jours où les officiers de terrain n'en revenaient pas de tant d'incompétences. Ils finirent de s'équiper, les flanqueurs prirent leurs fusils en main, puis en peloton ils traversèrent la route. Cal commença par observer la supérette. Dernière position connue de leur cible, 0 km des recherches. Tout en étudiant le bâtiment, il fit ce qu'il faisait le mieux. Raisonner comme un homme en fuite. Un jeune de 17 ans, qui, pour une raison quelconque, avait descendu ses 2 parents d'accueil au saut du lit. Après quoi il avait pris la fuite, vidant le coffre-fort de ses armes, volant la voiture. Et il était parti vers le nord. Pourquoi le nord ? Première décision qui méritait réflexion. La voiture avait lâché, surchauffe par cette canicule infernale. Mais où était donc passée cette fichue brise marine ? Le garçon avait donc continué à pied. Avec les 6 armes ? Trop voyant. Alors il en avait planqué une partie. À proximité de la voiture, certainement, où les enquêteurs ne tarderaient pas à les découvrir. Cal et son équipe seraient reconnaissants des informations qu'on pourrait leur fournir à ce sujet. Quand on court après un fugitif armé, mieux vaut connaître la composition de son arsenal. Le shérif avait parlé d'un 9 mm, et Cal aurait parié que le garçon avait aussi gardé une carabine. Une arme de courte portée, une autre de longue portée. L'alliance parfaite pour un suspect résolu à faire un carnage. Ce qui ramena Cal à sa première question. Pourquoi le tireur avait-il choisi de partir vers le nord ? Avait-il une destination en tête ? La station EZ-Gaz, par exemple, où il avait fait 2 nouvelles victimes ? Cal n'était pas criminologue, il ne comprenait pas les ressorts de la violence. Non, son talent à lui consistait à envisager les questions logistiques, à raisonner comme un fugitif. Or, celui-là, après avoir abattu 2 personnes... Cal s'approcha du périmètre de la scène de crime. Ses coéquipiers restèrent en arrière, attendant son signal. Noni observait elle aussi les alentours, mais elle avait déjà eu l'occasion de travailler avec Cal et préférait lui laisser la main. Le pisteur alla se placer devant la porte de la station-service dans le sens de la sortie, puis se mettant dans la tête du tireur, tourna vers le nord. Il longea alors le ruban de scène de crime jusqu'à se retrouver avec, sur sa gauche, la route étroite qui miroitait sous les ondes de chaleur, et sur sa droite, la benne à ordures, à proximité d'une épaisse haie de buissons mal taillés. Au bout du terrain, pas de départ de sentier pédestre identifiable. Pas de signe d'intrusion récente ni de piétinement. Et pourtant, il sentit son pouls accélérer. Il s'accroupit, scruta les abords poussiéreux du parking à la recherche de traces, observa les buissons à l'abandon sous un autre angle. Et de l'autre côté de la vieille benne, il aperçut vaguement quelque chose. Une empreinte de pas, une tache sombre. Il fit le tour de la benne, et là, juste derrière, touchant presque la roue bloquée, il eut la satisfaction de trouver son premier signe de la journée. Il se retourna vers son équipe une quinzaine de pas derrière lui. « Hé !» lança-t-il. « Prévenez le shérif. On a du vomi. »